Zoé Sfez, vous nous parlez maintenant d'un livre, IA, la plus grande mutation de l'histoire. Il est signé Kai Fu Lee.
Effectivement, alors ce livre, tous les spécialistes de l'intelligence artificielle, mais aussi les futurologues, se l'arrachent et le commandent depuis sa parution aux États-Unis il y a quelques mois. Il vient d'être traduit en France aux éditions des Arènes. Alors effectivement, il a de quoi faire couler de l'encre, puisque sa promesse est assez simple. C'est nous livrer le nom du vainqueur de la bataille de l'intelligence artificielle. Et son auteur, Kai Fu Lee, qui est suivi par 50 millions de personnes et quelques sur Twitter, est en fait le prophète le plus crédible sur le sujet, puisque c'est un chercheur en intelligence artificielle qui l'a travaillé. Il a été formé à la Silicon Valley, il a travaillé chez Microsoft, chez Apple, puis il a pris la tête de Google China de 2005 à 2009 et il a enfin fondé une société d'investissement dans l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui la plus importante en Chine. Son livre commence par le récit de ce qu'il appelle le moment Spoutnik. Ce moment Spoutnik, il a eu lieu en 2017 et je suis sûre qu'on en avait parlé. C'était la victoire d'AlphaGo. Vous savez, AlphaGo, c'est l'intelligence artificielle de Google, donc une intelligence artificielle américaine, contre Kedieu, le champion mondial du jeu de Go, ce jeu le plus complexe auquel l'esprit humain puisse s'adonner. Et ce moment va déterminer le gouvernement, puis les investisseurs chinois, à mettre les bouchées doubles dans la bataille de l'intelligence artificielle, un peu de la même manière que le succès des Soviétiques avec le satellite Sputnik avait poussé les États-Unis finalement à investir dans le domaine du spatial et au passage de créer la NASA. Alors la bataille fait rage depuis lors, nous dit Kai Fu Lee. Elle se joue encore au coude à coude, mais il écrit ce livre pour nous le prévenir de ce qui va se passer. Eh bien c'est la Chine qui va l'emporter. Dans les deux premiers tiers de ce livre, Kai Fu Lee se livre à une démonstration assez passionnante, très rigoureuse, et qui rien que pour cela vaut la peine de lire le livre, où il liste les caractéristiques techniques et culturelles qui sont propres à cette révolution de l'intelligence artificielle, qu'il compare dans son ampleur à celle de l'électricité. Il explique aussi pourquoi la Chine est fondamentalement vouée à la gagner. Pourquoi ? Parce que la Chine, culturellement, est une nation de copieurs. On le sait, depuis Confucius, les lettrés chinois, ceux qui sont sélectionnés dans les grands concours, sont ceux qui apprennent et reproduisent à la perfection des enseignements et des écrits livrés par leurs ancêtres. Et c'est en copiant les sites de la Silicon Valley que l'Internet chinois s'est développé. Ce statut de copieur, d'ailleurs, a longtemps suscité le mépris des pontes de la Silicon Valley, chez qui l'originalité, l'esprit de pionnier règne en maître. Vous vous rappelez que jusqu'il y a peu, on parlait du Facebook chinois, du Yelp chinois. Tout ça, c'était jusqu'à l'arrivée de WeChat, cette fameuse super application chinoise qui n'a pas d'équivalent dans le monde, avec lequel vous pouvez téléphoner, mais aussi payer votre sandwich, communiquer avec vos amis et même contracter un prêt. Pourquoi est-il né en Chine et pas aux États-Unis ? Parce que les entrepreneurs ne courent pas après la célébrité ou la gloire. Ils ne rêvent pas de changer le monde. Leur but ultime, c'est de faire fortune, peu importe les moyens, écrit Kai Fu Lee. Les copieurs sont en fait ceux qui s'adaptent le mieux au marché. Et ils s'adapte mieux au marché que les partisans de la bonne idée. Et l'auteur de revenir sur les success stories de tous les entrepreneurs chinois, de Baidu à Alibaba, en les qualifiant de gladiateurs. Ils se copient entre eux et luttent jusqu'à la mort, peu importe l'idée, pourvu qu'on ait le marché. L'inertie des petits génies de la Silicon Valley, trop attachés à l'universalité de leur bonne idée, causera dans ce contexte leur perte. Kai Fu Lee, on se rappelle, a dirigé Google pendant 5 ans. Il explique que c'est l'incapacité ou plutôt le manque de volonté du groupe américain de s'adapter au marché chinois en créant par exemple des fonctionnalités propres à la Chine, eh bien qu'il a complètement perdu ce marché. Entre le missionnaire de la Silicon Valley et le gladiateur, c'est le dernier qui, en matière d'intelligence artificielle, l'emportera. L'autre certitude de Kai Fu Lee, c'est que la révolution de l'intelligence artificielle et du deep learning en particulier, eh bien il appartient aux bricoleurs et pas aux prix Nobel. Autrement dit, si les cerveaux bien faits des occidentaux étaient au cœur de la révolution par exemple du nucléaire, eh bien celle de l'IA appartient à ceux qui pourront nourrir, ajuster, peaufiner et développer les algorithmes, puisque c'est la base même du deep learning, l'apprentissage profond. Autrement dit, les bricoleurs, ce qui explique que le livre écarte dès le début des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Canada, qui ne sont cités qu'une ou deux fois, comme des puissances capables seulement de produire des bons scientifiques, mais qui ne méritent même pas le titre de belligérants dans cette fameuse grande bataille. Dans cette bataille, la Chine dispose de deux atouts de taille, une quantité infinie de carburant. Le carburant de l'IA, c'est quoi ? Évidemment, ce sont les données. Pourquoi ? Parce que le basculement vers le numérique s'est opéré en Chine ces dernières années, eh bien il est passé par les smartphones sans passer par la case ordinateur, sans passer par les PC. Par ailleurs, les Alibaba et autres WhatsApp ont réussi à convertir tout le pays au paiement par smartphone, y compris tous les Chinois qui n'avaient jamais eu de relation avec une banque. Et donc ces groupes centralisent aujourd'hui via les smartphones, les Chinois, un nombre et une diversité de données qui n'est pas comparable avec ce que peuvent collecter aujourd'hui Google et Amazon. Par ailleurs, et c'est une donnée cruciale, le gouvernement chinois a fait de l'IA une priorité absolue. depuis 2017, un discours passé complètement inaperçu dans les médias occidentaux de l'un des dirigeants du parti a décidé de débloquer une manne gouvernementale qui fait qu'aujourd'hui, l'argent pleut de toutes les entités de la puissance publique. Une approche techno-utilitariste, nous dit Kaifouli, qui vise à convertir le tout dernier des Chinois qui pousse chaque ville, chaque gouverneur à rivaliser aujourd'hui pour attirer les meilleures start-up. Face à la Chine, les États-Unis de 2020, où l'État laisse toujours le marché faire et où Donald Trump se défie des GAFA, eh bien le pays va accumuler un retard certain dans les quatre vagues successives de l'IA qu'il pointe. On connaît l'IA en ligne, on connaît l'IA professionnelle qui conseille par exemple, qui consiste par exemple à donner des données financières à un algorithme pour comprendre où il peut économiser. Elles sont déjà là et les États-Unis déjà sont plutôt en bonne place. La Chine accuse un retard, mais dans les deux suivantes, celle de l'IA perspective, celle où les capteurs sensoriels sont au centre de tout, reconnaissance faciale, capteurs sonores, et celle de l'IA autonome, celle des voitures autonomes. Eh bien, celles-ci, elles appartiennent déjà aux Chinois. La démonstration est globalement implacable, elle vaut le coup d'être découverte, mais c'est là sans doute que le bât blesse, puisque pas une seule fois la question politique s'est invitée dans cette analyse. Kaifouli ne mentionne même pas le très contesté système de crédit social mis en place par le gouvernement chinois, testé actuellement, qui vise à noter ses citoyens. Pire, le système chinois fonctionne parce qu'il ne se pose pas de questions, nous dit en substance Kaifouli. Quel est le niveau de surveillance acceptable en échange de plus de sécurité et de confort, s'interroge-t-il, page 200 de son ouvrage. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais en attendant, la Chine prend de l'avance dans l'IA en adoptant une attitude relativement souple sur cette question. Fin de citation. Donc il faut comprendre que les problèmes éthiques que nous nous posons notamment en Europe nous retardent. Tout dans ce livre fonctionne comme si la Chine désignait à la fois l'État, des entrepreneurs très enthousiastes et des citoyens tout aussi enthousiastes. Rien ne nous dit pourtant que ce sera le cas. Le futur qui nous attend, où l'IA est au cœur de nos vies et où la Chine a totalement remporté la bataille, n'est pas radieux pour autant, Kaifouli le sait, le reconnaît. Il en est convaincu, l'IA va détruire non pas des millions, mais bientôt des milliards d'emplois, bien plus que ne le prédit l'OCDE. Pour lui, à terme, dans 30 ans, 50 à 60% des emplois aux États-Unis seront remplaçables et sans doute donc remplacés par l'IA. Mais là encore, Kaifouli essaye d'être optimiste et il y voit une merveilleuse occasion de nous concentrer sur ce qui nous rend plus humains, puisque ce sont les métiers à vernis humain ou ceux complètement engagés dans l'humain qui survivront seulement, organisateurs de mariage, médecins évidemment, ou instituteurs. Sa solution à lui, accorder une allocation d'investissement social, un salaire décent versé par l'État à toutes les personnes qui, dans cette société, s'investissent dans des activités qui promeuvent une société chaleureuse, compatissante, créative, un travail centré sur les soins, les services à la communauté et l'éducation. Alors quid des pays qui n'auront pas eu le temps de se développer? Quid bien sûr des États qui ne s'intéresseraient pas à l'humain? La question se pose. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que si Kaifouli nous livre une certaine vision de l'avenir, il ne faut pas oublier qu'il est aussi dans une espèce de prophétie autoréalisatrice. Il est aujourd'hui l'homme qui dirige la plus importante société d'investissement dans l'intelligence artificielle en Chine.
Voilà, le livre s'appelle IA, la plus grande mutation de l'histoire. Il est signé par Kaifouli. Il vient de paraître, il a paru aux éditions Les Arènes.